Bonjour à tous. Excusez-moi, je suis un peu enroué, mais c'est peut-être les bienfaits de la climatisation, de la voiture, je ne sais pas. Voilà, donc ce matin, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous, pour nous tous, c'est être fils adoptif du Père Céleste. Nous lisons, je vous invite à lire dans la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 3, un texte magnifique que j'ai lu il y a déjà un certain temps et qui m'a beaucoup encouragé. Galates chapitre 3, versets 26 à 4, 7. Je lis dans la traduction Vie Nouvelle de la Bible Second 21, que j'ai trouvé ce texte bien rendu dans cette traduction. Donc, Galates 3, je vais lire à partir du verset 24. « Ainsi la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers selon la promesse. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au temps fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais tu es fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Donc pour bien comprendre ce texte, eh bien, j'ai pensé que nous avons des privilèges, c'est notre nouveau statut. « Fils, vous l'êtes bien », dit une traduction. « Fils, l'êtes-vous bien ?» Je pose la question. « Le sommes-nous bien ?» dans le concret. Et le fait d'être fils et fille de Dieu, eh bien, entraîne à des implications. Et puis, nous sommes appelés à passer de l'état d'esclave au statut de fils et de fille pour devenir aussi des héritiers. Ça prend du temps. Non pas pour devenir, parce que ça se fait, on va dire, instantanément au moment de notre nouvelle naissance où nous rencontrons le Seigneur. Ça prend du temps pour non pas pour le devenir, mais pour le réaliser dans notre cœur, n'est-ce pas? On le voit bien dans notre expérience. Maintenant, j'aimerais qu'on se focalise sur les versets 4 et 7, 4 à 7 donc des Galates. Quand cela a commencé? Eh bien, lorsque les temps furent accomplis. Depuis 18 siècles, Dieu avait fait des promesses à Abraham. Depuis 1000 ans, au roi David et à tous les prophètes, n'est-ce pas, qui se sont succédés. Et encore aujourd'hui, eh bien, les Juifs attendent le Messie qui est déjà venu. Les Juifs, eux, attendaient ce Messie. Ils espéraient à chaque génération que c'était la leur, qu'ils verraient la venue du Messie, Jésus. Et Jésus, finalement, est arrivé au temps de Dieu, lorsque les temps furent accomplis. Dieu est toujours à l'heure, et il est le maître du temps, de l'histoire, de nos vies. Jésus est arrivé quand? À une période, paraît-il, d'après les historiens, la plus favorable qui soit, pour que la bonne nouvelle se répande pendant ce qu'on a appelé, je crois, la Pax Romana, où l'Empire était dans une certaine paix, l'Empire romain, qui permettait aussi des voies de communication développées, et donc la diffusion aussi de la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre connue à l'époque. Et donc, comment cela s'est fait? Eh bien, il y a quatre étapes que vous avez ici sous les yeux. Donc, l'incarnation, qu'on peut résumer en quatre étapes, l'incarnation par la venue de notre Seigneur Jésus dans une humble femme de Nazareth, la Vierge Marie. Et donc, Jésus est né sous la loi et sous l'occupation romaine, venu briser non pas le joug des Romains, mais venu briser un joug bien pire et subtil qu'est le péché, venu pour racheter l'humanité, incapable d'obéir à la loi comme Israël. Et non seulement il est venu révéler son Père par sa parole de vérité, mais aussi par la rédemption, le prix dont on vient de rappeler par le pain et le vin, le prix du sacrifice qu'il a consenti, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour nous racheter de cette malédiction de la loi et de nos péchés. J'aimerais lire un texte d'un, parce que c'est beaucoup mieux de lire que de citer, et donc John Stott, Appelé à la liberté, commentaire de l'Épître aux Galates, que je vous recommande, il est dans la bibliothèque de notre Église, et j'ai trouvé tellement beau que je préfère vous lire. Celui que Dieu envoya pour accomplir notre rédemption était parfaitement qualifié pour agir ainsi. D'une part, il était le Fils de Dieu. D'autre part, il était né d'une femme. Ainsi, il était à la fois humain et divin, le seul et unique Dieu fait homme. En outre, il était né sous le régime de la loi, c'est-à-dire d'une mère juive, dans la nation juive, au sujet de la loi juive. Et sujet, pardon, à la loi juive. Pendant toute sa vie, il se soumit à toutes les exigences de la loi. De plus, il réussit là où tous les autres avant lui avaient échoué. Il accomplit parfaitement la justice de la loi. Le seul homme qui ait marché d'une façon juste sur toute la terre, c'est extraordinaire. Nous pouvons admirer le Seigneur Jésus, ce berger, comme on l'a rappelé ce matin. Ainsi, la divinité, l'humanité et la justice du Christ, toutes ces choses se sont conjuguées en sa personne et l'ont qualifié de façon unique pour être le rédempteur de l'humanité. S'il n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu racheter les hommes. S'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu racheter des hommes injustes. Et s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu racheter des hommes pour Dieu, ni en faire des fils de Dieu. Voilà, c'est John Stott, c'est bien dit. Et c'est important de comprendre cette parfaite humanité et cette parfaite divinité du Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions répondre de notre foi aussi, expliquer notre foi à d'autres qui ont de la peine à comprendre ce grand mystère. La troisième étape du salut, c'est le don de l'Esprit et de son Fils qui crie « Abba, cher papa » en araméen. Lors de notre nouvelle naissance ou de notre régénération, ou baptême de l'Esprit, comme la Bible qualifie ces différents mots, différentes expressions pour une même réalité. L'œuvre du salut qui est communiquée par le Saint-Esprit dans notre cœur. Ensuite, la quatrième opération, c'est la libération de l'emprise du péché. Tu n'es plus esclave. Mais cette parole, frères et sœurs, il nous faut l'entendre résonner en nous, bien des fois, pas seulement le jour où on se convertit au Seigneur Jésus, mais bien des fois, et encore, moi-même, chacun de nous, jusqu'à la fin, nous devons l'entendre. Tu n'es plus esclave. Comme un petit enfant, entre parenthèses, on le remarque, pour nous qui sommes parents aussi, Un petit enfant, il met du temps à comprendre tout ce que ses parents ont fait pour lui. Et c'est beaucoup plus tard, en avançant en âge, qu'on réalise toutes les implications que nos parents ont accomplies pour nous éduquer, pour nous faire du bien, n'est-ce pas? Ça prend du temps jusqu'à ce qu'on comprenne. Donc il en est de même aussi avec Dieu. L'adoption nous affranchit, l'adoption par Dieu, de tous les liens antérieurs, c'est-à-dire la malédiction de la loi, de tout ce qui nous rendait esclaves des éléments de ce monde, coutumes, traditions des hommes, habitudes néfastes, idolâtrie, addiction qui nous détruisent. Donc il est important de bien réaliser ce grand salut que Dieu est venu nous donner. Je lis aussi une petite note de la Bible du Semeur. Avant la venue du Christ, les Juifs comme les païens vivaient dans l'esclavage. Les premiers à la manière d'enfants mineurs qui ne peuvent jouir de leur héritage, les seconds à cause de leur idolâtrie. Mais grâce à la mission du Fils et de l'Esprit, Juifs et païens sont appelés à hériter des biens promis, tels des fils adoptifs de Dieu. D'où la folie de vouloir encore s'asservir aux principes élémentaires de la loi ou de ce monde. Alors pourquoi l'adoption? Eh bien, on a une réponse, me semble-t-il, qui résume tout. C'est dans le texte de Éphésiens 1, verset 4. En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Alors, je vous invite à relire ce texte peut-être tranquillement à la maison, à genoux, tout seul avec Dieu, pour mesurer le poids de chacun de ces mots. Et même si on ne comprend pas tout, souvenons-nous et croyons que dans cette doctrine qui est très difficile à comprendre et qu'on n'a jamais fini de comprendre, de la prédestination, c'est l'amour du Père qui est le moteur, qui est la motivation du fait que nous soyons adoptés et devenus fils et filles. C'est l'amour extraordinaire, infini de Dieu notre Père. On aura toute l'éternité pour le savourer, et il faudra rien de moins que l'éternité pour le savourer, pour le découvrir. Vous vous rendez compte? Je veux dire, même ce matin, on a quelques faibles mots, comme on l'a dit dans la chanson, pour l'exprimer, bien, bien faiblement. Mais là, on le comprendra de plus en plus et de mieux en mieux. Donc, l'adoption était dans un plan, et de savoir que ma vie fait partie d'un plan, ça rassure dans un monde déboussolé qui va dans toutes les directions. C'est merveilleux de savoir que notre vie fait partie d'un plan divin conçu avant la fondation du monde. Je vous lis une petite anecdote aussi qui était relevée par un pasteur, Lucien Clerc, dans un de ses livres. Il raconte que l'explorateur bien connu, Stanley, a raconté comment lui, pauvre orphelin, fuyant l'Angleterre et ses bagnes d'enfants, jeté sans ressources sur la terre américaine, trouva tout ce qu'il avait espéré, et même au-delà, en trouvant un père. Dans la rue, j'accostais un monsieur, le suppliant de m'aider, et en lui disant, « N'auriez-vous pas besoin d'un petit garçon ?» C'était spontané, hein ? Cet inconnu devint mon protecteur, puis un ami, au point qu'un jour, il me dit, « Je me charge de ton avenir. Désormais, tu porteras mon nom, Henry Stanley. » Puis il m'embrassa tendrement. J'eus une impression de vertige. Alors, j'éclatai en sanglots, car c'était le premier mouvement d'affection dont je fus l'objet. Sortir ainsi des abîmes de l'isolement, c'était bien là le plus extraordinaire des miracles. C'est Stanley qui raconte ça, hein, un homme qui est devenu explorateur. Ça lui a donné le punch pour explorer l'Afrique. Donc, l'amour d'un père humain est tellement important aussi. Hein, il faut le relever au passage. Et nous qui sommes des pères, ne négligeons pas notre responsabilité aussi, d'être ces reflets aussi du Père saint et parfait du ciel. Donc, Dieu ne se contente pas de nous adopter comme fils et filles, mais en plus, il fait de nous ses héritiers. Tu es héritier, nous dit Galates, chapitre 4, verset 7. Bien plus, héritier grâce à Dieu. Et dans la parole de Dieu, j'ai regardé un peu quelques éléments de l'héritage. Donc, vous avez ces éléments, c'est la vie éternelle, c'est le royaume qui est promis à ceux qui ont cru et qui suivent Jésus. Ceux qui héritent la terre, aussi heureux les doux, a dit Jésus, ils hériteront la terre. Contrairement aux violents qui, par les armes, veulent s'emparer des territoires et de la terre, ce seront les doux, ceux qui seront laissés brisés par le Seigneur Jésus dans leur cœur et qui auront confessé leurs péchés, leur orgueil, leur dureté, ceux-là, ils hériteront la terre. Et puis le salut, nous hériterons du salut, c'est-à-dire du salut présent et futur. Et puis Noé est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi, selon l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il construisait l'arche. Une note de la Bible Second 21 rappelle aussi que sous la loi romaine, un enfant adopté jouissait de tous les droits sur les biens de son père, même s'il avait été esclave. Il n'était pas un fils de seconde classe, il était l'égal de tous les fils biologiques de son père. Donc c'est intéressant. Donc Paul devait faire référence à ce fait bien connu. Et puis nous aussi, si on réfléchit, tout père humain aime pouvoir donner quelque chose à ses enfants, ne serait-ce que la nourriture, des habits, des livres, peut-être un vélo quand il vient un peu plus grand, ou divers cadeaux. Et puis, après notre décès aussi, eh bien, en principe, si on a quelque chose, nos enfants en héritent. Alors, Jésus a pris cette image dans l'Évangile aussi, il dit « Combien plus ?» Vous êtes méchants, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il ? Vous donnera-t-il à vous qui lui demandez ? Donc, notre Père Céleste est généreux. Donc, notre héritage, il faut aussi savoir ceci, il est déjà en notre possession. Nous sommes déjà dans le royaume, nous avons déjà les arts de l'esprit, le début, la compte. Mais il y a aussi le pas encore. Le pas encore, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur les nuées du ciel nous chercher avec lui. Eh bien, voilà, c'est important de comprendre ces deux temps. Déjà, c'est la justice de Jésus-Christ et le salut, le pardon de nos péchés que nous avons déjà, la vie éternelle en nous. Mais le pas encore, nous attendons l'accomplissement complet des promesses, comme dit Paul dans Romains chapitre 8, versets 22 et 23. Je vous lis. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, bien plus. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Et je pense plus particulièrement à ceux qui souffrent parmi nous dans la maladie, dans l'épreuve, quel réconfort de savoir qu'un jour, ces corps d'humiliation par lesquels nous passons par des chemins de souffrance, un jour ils seront transfigurés, transformés, métamorphosés littéralement par le Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, comme il nous est dit dans l'Épître aux Philippiens. Donc un puissant encouragement. Donc maintenant, je viens à des choses aussi peut-être plus concrètes, pratiques. On a reçu les privilèges de l'adoption, fils et héritier du royaume, c'est super, mais maintenant il faut gérer la liberté nouvelle que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi, dans la suite de l'Épître aux Galates, Paul en vient à des considérations pratiques. Et donc on va lire Galates 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. » Il y a deux exhortations. Donc la première, celle-ci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais attention de ne pas vous remettre, il dit aux Galates, sous le joug de l'esclavage, et en particulier eux, c'était le légalisme religieux qui peut conduire à l'orgueil et au jugement. Moi, je fais ça, toi, tu ne le fais pas. La critique sur les frères et sœurs qui n'ont pas compris. Donc, attention de ne pas retomber dans l'esclavage de ce légalisme. Ensuite, verset 13, c'est l'autre danger, c'est à l'opposé. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Donc, attention de ne pas abuser de la grâce, parce qu'on peut partir dans l'autre sens. Et c'est un danger, je pense, qui nous guette beaucoup dans le monde actuel où tout est axé sur le plaisir, se faire du bien, etc., etc. Ce n'est pas interdit, mais quand on en fait le but de notre vie, ça devient vraiment, on passe à côté et on rate vraiment le plan de Dieu pour nous. Alors je pense à un gars qui est en prison pendant des années, qui ressort dans la rue, le vertige qu'il doit éprouver après des années d'incarcération, ça doit être une expérience déroutante. Gérer la nouvelle liberté. Waouh, tout le temps libre. Qu'est-ce que je vais faire? Et si j'ai de l'argent, avec quoi je vais l'utiliser, cet argent? Donc, c'est un peu pareil pour nous. Une fois qu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, nous avons une grande liberté qui nous est donnée. Mais en même temps, attention de ne pas nous laisser remettre sous un esclavage. Cette nouvelle liberté, donc, doit être utilisée, canalisée pour devenir serviteurs les uns des autres. Quel programme! Et la qualité de notre amour ne dépend pas d'abord de ce que nous faisons, parce qu'il peut y avoir un piège aussi, mais de ce que nous vivons dans notre relation avec Dieu. C'est pourquoi au verset 16 de ce même chapitre, il nous est dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». La chair, c'est-à-dire, ça ne veut pas forcément dire notre corps, ça veut dire la nature humaine, de notre caractère aussi. Ça comporte tout cela. Mais si, il est dit au verset 18, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et encore le verset 24, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Il y a une nouvelle marche à apprendre. Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit. Ce n'est possible que si nous restons identifiés à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection. Comme Paul l'explique aussi dans Galates 2:20, où il dit, un texte magnifique, où il dit « Je suis crucifié avec Christ, si ce n'est plus... Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair. Je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc, notre protection, notre libération, notre transformation passe par le fait de saisir que nous sommes identifiés à Jésus dans sa mort, d'une façon concrète dans la vie de chaque jour, pour pouvoir vivre cette vie de résurrection, de puissance par le Saint-Esprit qui nous arrache à notre ancienne nature. Et Paul nous parle dans Galates 5 des œuvres de la chair. Je ne vais pas les commenter, mais je vais les lire. Ce n'est pas très agréable, ce n'est pas beau, il y en a 15, mais ça vaut la peine de réaliser ces choses. Que ça arrive à nous aussi chrétiens de vivre ces choses. Et nous, si nous les vivons, nous sommes appelés à nous en repentir. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, lorsque nous tombons dans ces œuvres de la chair, eh bien, par la grâce du Seigneur, ayons le courage de nous relever en saisissant son pardon. Mais ceux qui restent et qui demeurent sans cesse dans ces choses s'excluent du royaume. Par contre, Paul montre ce qui suit. C'est ça la qualité de vie que Dieu attend de ceux qu'il a adoptés dans sa famille. Mais le fruit de l'esprit, c'est un fruit avec 9 qualités qui sont les caractères du Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Donc, ceux qui sont adoptés par Dieu le Père, qui vivent par sa grâce, si nous vivons ces choses par sa grâce, eh bien, je dirais, nous sommes en mesure de participer encore beaucoup mieux au plan de Dieu pour lequel il nous a sauvés. Ceux qui sont adoptés par Dieu découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Ils font partie d'une famille. La famille de la foi, ou la maison de la foi, littéralement, j'ai une petite note de ma Bible à la colombe, au verset 10 du chapitre 6. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est la maison de Dieu. Donc, nous découvrons que nous faisons partie de ce que Dieu appelle l'assemblée, l'église de Jésus-Christ. C'est la maison de Dieu. Et dans cette assemblée, Dieu me donne des occasions de renoncer à certaines formes de liberté que j'ai, mais d'y renoncer par amour. Notre liberté égocentrique pour servir mes frères et sœurs, et cela non pas un jour par semaine ou deux jours, mais tout au long de notre semaine, Dieu va nous donner des occasions de servir, déjà dans ma famille, dans mon lieu de travail. Dieu va me donner de servir. Comment pratiquement? Eh bien, Paul montre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. On n'a pas le temps ce matin de tout étudier, mais simplement de voir Galates 6, verset 1. « Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Tu n'es pas plus grand, tu n'es pas plus fort que ton frère. » Puis après, ce conseil aussi, cette exhortation, « Portez les fardeaux les uns des autres, vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Portez les fardeaux. Nous soucier de celui qui est tombé, qui est en difficulté, qui est découragé, ça fait partie du programme, pas seulement des anciens de l'Église, mais aussi de tous les frères et sœurs. On est une famille. Et dans chaque situation, Paul ainsi montre la solidarité qui doit exister entre nous, entre les croyants. Ensuite, Galates 6, versets 7 à 10, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair ou de la nature humaine la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et après cette exhortation, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, on n'aura pas toujours l'occasion. Hein, on n'a qu'une vie sur la terre. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc semer pour l'esprit, il faut donc sélectionner la qualité de ce que nous semons. Comme les agriculteurs, ils ont des groupes de sélectionneurs, ils sélectionnent les meilleures semences. Et puis, ça concerne deux sortes de situations. Envers tous, ça veut dire les gens de l'extérieur, le mendiant ou la mendiante qui est au coin de la rue, qui nous dérange dans notre confort, mais aussi avec le discernement, priorité à ceux de la famille de Dieu. Et nous avons comme modèle et comme exemple le Seigneur Jésus-Christ qui nous est dit dans Actes 10, 38, « Il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais Jésus faisait du bien à tous. Il faisait du bien à ceux qui étaient nourris, vous savez, dans la foule, croyants ou incroyants. Il a fait du bien à tous sans distinction. Eh bien, nous aussi, appliquons-nous à faire le bien. 1 Pierre 2,15. Il y a quatre fois dans l'épître de Pierre, en regardant de plus près, j'ai vu quatre fois cette expression « faire le bien ». Je vous lis la première simplement. 1 Pierre 4, 15. « Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres ou des femmes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Voyez, nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. C'est extraordinaire. Ce n'est pas des gens à part. Nous sommes tous des gens à part, tous les enfants de Dieu, tous les adoptés de la famille. Donc chaque jour, avec l'aide du Seigneur et de son amour répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, je peux et je devrais pouvoir faire du bien à quelqu'un. Quand je me lève, Seigneur, à qui tu veux que je fasse du bien aujourd'hui? Tu as préparé quelqu'un. Je ne sais pas qui ça sera peut-être, mais je te fais confiance. Tu conduiras ma vie. Et Jésus, dans Matthieu 5, il nous dit qu'à travers ce bien, c'est une lumière qui brille devant les hommes, qui, en voyant nos bonnes œuvres, glorifieront notre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Et encore un peu plus loin, Jésus nous montre encore un autre exemple de faire le bien pour nos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est une façon de montrer, de témoigner qu'on appartient bien à notre Père. Je conclue. Notre adoption donc doit se remarquer par un comportement différent avec autrui, que ce soit des chrétiens ou non, et c'est l'enseignement de notre Maître, le Seigneur Jésus, notre modèle. Et il y a encore beaucoup d'autres exemples, mais nous voulons, je veux compter sur notre Père Céleste pour nous le montrer en temps utile. D'anciens esclaves du péché, Dieu a fait de nous des fils et des filles adoptifs et des héritiers. Fils, vous l'êtes bien, nous le sommes bien. Et parce que vous l'êtes bien, vous ferez le bien pour l'amour et pour l'honneur du Père qui nous a adoptés, notre Père qui est aux cieux. Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole qui est si belle, qui est si grande, qui nous instruit. Nous te remercions pour ce merveilleux berger que tu nous as donné en Jésus et ce modèle aussi que tu nous as donné de vie, de sagesse, d'amour, de service. Et veuille nous pardonner toutes les fois, Seigneur, où nous oublions cette merveilleuse adoption que tu nous as faite, que tu avais préparée avant la fondation du monde, nous dit ta parole. Oh, merci encore et élargis nos cœurs, nos esprits, pour que nous comprenions de plus en plus ce merveilleux plan que tu as pour nos vies de racheter de Jésus-Christ. Et permets, Seigneur, que bien simplement, déjà, tout au long de cette nouvelle semaine qui commence, eh bien, nous soyons des serviteurs pour toi, pour nos frères et sœurs. Guide-nous, conduis-nous, Père, dans ce nouveau programme et qu'on puisse vraiment porter ton nom dignement dans nos vies. Par la puissance de ton Saint-Esprit, nous voulons compter sur lui pour le réaliser, car nous sommes bien faibles. Mais merci encore d'être avec nous tous les jours, comme on l'a chanté tout à l'heure. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Amen.